Radio Kapi.
Le président du Sénat plaide pour l'augmentation du salaire des fonctionnaires afin d'impacter directement le panier de la ménagère. Le président de l'Assemblée nationale, lui, plaide pour l'allocation d'un budget conséquent dans le secteur agricole pour amener la RDC à une autosuffisance alimentaire. Batilou Kouebo et Christophe Mbosso se sont exprimés ainsi ce jeudi à l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Dossier carburant arrivé en début de semaine à Mwanda au Congo central. L'Office congolais de contrôle parle d'un malentendu sur la note explicative de l'OCC publiée sur les réseaux sociaux. Note annonçant la non-conformité de cette cargaison. Franck Mukanya a fait cette mise au point dans un point de presse hier à Kinshasa. Vous l'entendrez. Et puis, l'invité de ce soir, Dieu merci Assoumani, directeur du centre de recherche à l'Institut National pour l'étude et la recherche agronomique INERA et Ngambi. En marge des récents travaux de la pré-COP 27, il demande au gouvernement congolais d'allouer des fonds conséquents pour la recherche agronomique. Notez tout d'abord que la Cour de cassation vient d'ordonner la mise en liberté provisoire du pasteur Daniel Ngoy Mulunda, détenu depuis près de 20 mois à la prison de la Kasapa à Lubumbashi. Pour l'instant, la procédure poursuit son cours normal avant qu'il ne quitte cette maison carcérale, renseigne l'un de ses avocats. Il était poursuivi et condamné pour incitation à la haine tribale, propagation des faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. D'après la justice, ses propos étaient tenus le 16 janvier 2021 devant les fidèles de la nouvelle église méthodiste de Lubumbashi, dont il est le fondateur. Madame, Messieurs, bonsoir. Les deux chambres du Parlement ont procédé aujourd'hui à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire. Dans son mot d'ouverture, le président du Sénat s'est montré préoccupé par la détérioration du social des Congolais et invite le gouvernement à prendre des dispositions pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Batilou Kouebo a notamment plaidé pour l'augmentation des salaires des fonctionnaires afin que cela impacte directement sur le panier de la ménagère. Le président du Sénat, Modeste Batilou Kouebo, est au micro de Michel Kifindangoy.
Sur le plan social, cette nouvelle session s'ouvre sur fond de remous sociaux et de revendications dans les secteurs de la santé publique, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'enseignement supérieur et universitaire, sans oublier la baisse du pouvoir d'achat à la suite de la hausse des prix des biens de première nécessité sur le marché. La finalité de la politique doit viser le social de la population qu'elle est censée servir. Dès lors, le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour améliorer le vécu quotidien des populations actives, plus particulièrement les agents de l'État. J'invite donc le gouvernement à être réaliste dans les réajustements salariaux tout en tenant compte du panier de la ménagère.
Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale dit ne pas comprendre que la RDC soit frappée par la crise alimentaire due à la crise russo-ukrainienne, alors qu'elle est dotée d'une richesse en terres arables, en eau et en multiples ressources. Dans son discours d'ouverture de la session de septembre, Christophe Mbosso plaide pour l'allocation d'un budget conséquent dans le secteur agricole afin d'amener la RDC à une autosuffisance alimentaire. Christophe Mbosso Nkodia Poanga, au micro de Michel Kifindangoy.
Les effets néfastes de la crise russo-ukrainienne viennent démontrer encore une fois de plus la vulnérabilité de notre système de sécurité alimentaire. En effet, nous avions salué les heureuses initiatives annoncées par notre gouvernement dans les domaines agricoles lors de la présentation de son programme. Il s'agit notamment de la relance des filières prometteuses stratégiques pour l'autonomie alimentaire et la relance de l'industrie locale, l'encouragement de la création des unités de production des intra-agricoles, l'installation d'une usine de montage des tracteurs agricoles afin de garantir notre pays son indépendance alimentaire. J'invite instamment le gouvernement de la République à mettre en œuvre cet ambitieux programme à travers notamment des crédits conséquents dans la loi de finances de l'exercice 2023.
Et profitant de la rentrée parlementaire, les femmes du Nord Kivu, regroupées au sein des associations qui militent pour la promotion et la protection des droits de la femme, ont fait entendre leur voix, notamment en rapport avec ce qu'elles qualifient de silence notoire des institutions de la République sur la libération de Bunagana au Nord Kivu et ses environs, occupés depuis plus de 3 mois par le M23, appuyé par le Rwanda. En sit-in devant le Palais du Peuple ce jeudi, ces femmes ont déclaré qu'il n'y aura jamais de paix en RDC sans Bunagana et ses environs. Elles exigent aussi de renforcer les FARDC au front en appui logistique et financier. Écoutez à ce sujet Bénédicte Béni-Mézé, membre de l'association Mahou, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La manifestation d'aujourd'hui a pour objectif de demander la paix. Nous sommes venus suite à ce qui se passe, qui est connu au niveau international, ce qui se passe à l'est précisément à Bunagana. Et nous, étant des mamans, de femmes, nous sommes venus juste demander la paix. Que la paix soit à Rutshuru, territoire, dans le groupement et précisément à Bunagana. Nous sommes la population. Nous avons élu nos parlementaires. Nous avons nos députés qui parlent à la place du peuple. Aujourd'hui, ils sont de retour au travail. Alors, nous sommes venus leur demander, par rapport à la situation, qu'est-ce que vous avez constaté et quelle est la solution par rapport à ce qui se passe à Bunagana? Qu'est-ce qu'ils préconisent par rapport à cette situation? Pour encore leur dire que nous sommes là pour la paix, parce que nous avons besoin de cette paix. Nous voulons les inciter à briser le silence. Nous sommes venus juste demander la paix à Bunagana.
Notez qu'il a été constaté une forte présence des éléments de la police nationale autour du Palais du Peuple pour assurer l'ordre, mais aussi des manifestations des militants du Parti de l'Unité Nationale et ceux du Parti Autre Vision du Congo, ainsi que d'autres forces sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Après Goma, Vital Kamerhe est arrivé ce jeudi dans le sud Kivu via le port de Kaliba à Katana. C'est dans le territoire de Kabare, à une trentaine de kilomètres de Bukavu. Vital Kamerhe doit tenir un meeting à Bukavu à la place de l'Indépendance. Bukavu est la première étape d'une tournée qui doit conduire l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État dans plusieurs territoires du sud Kivu. Plus de détails avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Il est presque 14 heures quand le bateau transportant Vital Kamerhe et sa délégation accostent à Katana. Sur le quai, plusieurs autorités et leaders locaux, c'est notamment le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Marc Malago, Zachary Luamira, le président de l'Assemblée provinciale, et Norbert Bashengezi Kontintima, gouverneur honoraire du Sud Kivu. Plusieurs députés nationaux et provinciaux ont fait aussi le déplacement, ainsi que des milliers de sympathisants de l'UNC. Ensuite, Vital Kamerhe et toute sa délégation sont allés dans le centre de Katana, où l'ex-directeur de cabinet du président Tshisekedi s'est adressé brièvement à une foule compacte. Remerciements à la population et des appels à la paix et à l'unité sont l'essentiel de son message. De Katana Centre, Vital Kamerhe a marché avec son épouse à ses côtés peu avant d'atteindre le stadium de Kavumu, puis d'aller à Miti. Pendant ce temps, à Bukavu, des milliers de sympathisants ont déjà envahi la place de l'Indépendance où un meeting populaire est prévu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Vous aurez des détails sur le contenu de l'adresse de Vital Kamerhe à la population du Sud Kivu dans nos prochaines éditions. Controverse autour de la cargaison de carburant arrivée en début de semaine à Mwanda au Congo central en réaction à une note explicative de l'Office congolais de contrôle OCC publiée sur les réseaux sociaux annonçant la non-conformité de cette cargaison. Le directeur en charge du département de marketing à l'OCC a parlé des malentendus sur ce courrier interne. Il a dit au cours d'un point de presse tenu mercredi à Kinshasa, selon Franck Mukanya, les analyses se font sur base de plusieurs paramètres dont un seul sous paramètre de la rubrique volatilité de carburant a posé problème, mais cela ne donne pas lieu de conclure sur la non-conformité du produit. Le directeur en charge du département de marketing à l'OCC précise que le travail est fait pour que le carburant qui sera mis sur le marché soit propre à la consommation. Franck Mukanya, dans cet extrait choisi par Grace Amzati.
L'OCC a déjà formellement pris position par rapport à cette annonce en disant que c'était une tempête dans un verre d'eau. Ce sont des annonces qui n'avaient pas lieu d'être. Les produits qui a été prétendument déclaré non conforme a fait l'objet d'un premier déchargement au Togo. Un tiers de la cargaison a été déchargée au Togo depuis plus d'une semaine. Vous n'avez pas appris que le Togo est en flamme du fait de ces produits. Les mêmes produits sont arrivés ici. Nous avons nos normes, nous avons nos règlements techniques. Dès lors qu'on constate qu'il y a un gap par rapport à certaines exigences, on reçoit le produit en consignation. Il n'est pas mis immédiatement en consommation, il est en consignation. Il va être régénéré. Nous avons des arrivages annoncés tous ces jours-ci et donc la régénération peut être effectuée progressivement de telle sorte que le produit qui sera mis en consommation pourra l'être sans aucune inquiétude.
Congo central, 8 personnes sont mortes calcinées dans la nuit d'hier mercredi à Mbouba, une agglomération située dans le secteur de Ngoufou, territoire de Madimba. C'est à la suite de l'explosion d'un camion citerne, information confirmée par l'administrateur adjoint de Madimba. Dans un tweet ce jeudi, le gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndungidi, a déploré ce énième drame dans cette contrée et promet de prendre des mesures conséquentes pour renforcer la réglementation du transport, surtout celui des produits inflammable. Plus de détails avec Nana Plurish Mambou.
Alphonsine Ngombe et Alain Mondaoko, respectivement administrateurs du territoire adjoint et commandant du commissariat territorial de Madimba qui se trouve sur les lieux du drame, confirment les bilans de 8 morts et 20 brûlés grièvement parmi les habitants de l'agglomération de Mbouba. Le même source précise que le camion citerne s'est renversé vers 17h après avoir été bousculé par derrière par un autre véhicule poids lourd. Après s'être renversé, la citerne de l'essence a commencé à suinter et la population a accouru pour puiser les carburants. C'est à 22h que cette citerne a explosé, tuant sur les champs 8 personnes, dont un militaire de la garde républicaine commis à la sécurité des pipelines de la CEP Congo. Pour l'heure, les autorités locales ignorent encore l'entreprise propriétaire de ces camions, puisque la carcasse a totalement calciné. Selon Alphonsine Ngombe, les ambulances sont venues de Kinshasa pour récupérer les brûlés, mais le passage est bloqué par ces véhicules en feu. Ayant appris ces drames, le gouverneur du Congo central Guy Bandou a dans un tweet déploré cet énième accident, tout en indiquant qu'il est temps de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation des transports et surtout en ce qui concerne les produits inflammables pour mettre fin à ce cycle de sinistres dans la province. Rappelons qu'en octobre 2018, plus de 30 personnes avaient trouvé la mort dans des circonstances similaires dans cette même agglomération. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Et puis ce conflit Tekeyaka dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe. L'ancien premier ministre Adolphe Muzito appelle les deux communautés à la cohabitation pacifique. Message lancé hier dans son adresse à la population à Kwamout. Le président du parti Nouvel Élan a affirmé avoir vu plusieurs villages brûlés et désertés, ainsi que plusieurs déplacés totalement démunis à qui il a apporté une aide en vivres et non vivres. Il demande urgemment au gouvernement de renforcer la sécurité et aux humanitaires d'intervenir aussi, car la situation est désastreuse, a dit Adolphe Muzito dans cet extrait proposé par Alain Hirongo-Shinj.
La volonté de cohabitation entre les peuples est une des grandes qualités du peuple congolais en général et en particulier aussi de vous, population de Kwamout. Nous devons à tout prix entretenir cette valeur-là pour les générations à venir aussi. Mais pour cela, il faut appliquer la justice, il faut appliquer la vérité qui est à la base suprême. Entre-temps, je demande de toute urgence aux autorités du pays de renforcer la sécurité. Tout au long de mon parcours sur la route, j'ai vu des villages entiers brûlés et déserts. Que dire des endroits comme Machumbio jusqu'à vers Kwango, qui sont des lieux les plus enclavés. Là-bas, la souffrance doit être plus grande qu'ici. Il faut à tout prix que la sécurité soit renforcée et que les humanitaires aussi viennent en aide à ces populations complètement démunies. C'est la responsabilité du gouvernement et la responsabilité des ONG humanitaires internationales. Cette situation doit être prise très au sérieux, sinon elle risque d'embraser tout le pays.
Direction l'Ituri, plus de 500 cas de viol des femmes et filles mineures sont déjà enregistrés depuis le début de cette année dans le seul territoire de Djougou. Révélation de la responsable du bureau genre de cette entité, Ruth Biwaga, l'a dit hier à Bounia au cours d'un point de presse. Elle précise que parmi les victimes, 7 ont été abusées sexuellement la semaine dernière dans la commune de Mongwalou. Elle demande au gouvernement de mettre fin à l'insécurité, principale cause de la recrudescence des violences sexuelles dans ce territoire.
Actualité Afrique Monde.
Une jeune adolescente est décédée dans le sud-est du Maroc après un avortement clandestin dans un village rural, rapporte des médias locaux. L'avortement s'est déroulé au domicile d'un jeune homme qui exploitait sexuellement la victime, a indiqué dans un communiqué une coalition d'associations féministes marocaines. À la suite du drame, la gendarmerie royale a interpellé la mère de la victime, une infirmière et le propriétaire de la maison où l'avortement clandestin a eu lieu.
L'invité.
Nous recevons Dieu merci Assoumani, directeur du Centre de recherche à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA et Yangambi. Il lance ici un appel au gouvernement de la RDC à allouer des fonds conséquents pour la recherche agronomique, appel lancé en marge de la pré-COP 27 qui a eu lieu en début septembre en cours. Dieu merci Assoumani s'entretient avec Paul Matendo Mayamba.
Monsieur Dieu merci Assoumani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Yangambi vient d'accueillir cette rencontre de scientifiques. Que représente cette rencontre pour vous?
En fait, pour nous, c'est un honneur de recevoir cette rencontre des scientifiques. Et un grand merci au gouvernement congolais et aussi à la VPM Bazaïba pour avoir choisi Yangambi. Pourquoi Yangambi? C'est simplement parce que Yangambi, historiquement, Yangambi, c'est le berceau donc de la recherche agronomique et forestière au niveau tropical.
Alors, vous-même, vous avez participé à cette rencontre. Comment pensez-vous mettre en œuvre les recommandations qui sont issues de cette rencontre?
En fait, les recommandations ici de cette rencontre sont orientées à plusieurs niveaux. Et à notre niveau, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre des systèmes de production de semences qui permettent à ce que la population soit sédentarisée. Donc, si la population est sédentarisée, il y aura moins de pression sur la forêt. Et quand il y a moins de pression sur la forêt, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émis au niveau de l'atmosphère. Et là, le climat est protégé.
Vous avez parlé de la production des semences. INERA est spécialisé en cette matière. Quelle est aujourd'hui la situation actuelle?
En fait, l'INERA, aujourd'hui, nous continuons avec les moyens des bords de produire les semences de pré-base et de base, et lesquelles semences nous mettons à la disposition des agrimultiplicateurs pour donner finalement à la communauté. Et donc, nous avons 9 antennes de production et nous avons 6 programmes nationaux. Donc, nous produisons des semences pour que ces semences soient utilisées au niveau des utilisateurs.
Quelles sont les différentes semences que vous produisez?
Nous produisons le cacao, nous avons le cacao, le café, le riz, le manioc, l'arachide, le niébé, le maïs, voilà. Toute une série de productions de semences, nous les produisons ici à l'INERA Yangambi.
Yangambi, il y a aussi des infrastructures, mais à regarder de près, les infrastructures sont pratiquement en ruine. Comment vous expliquez cela?
En fait, Yangambi a été abandonné à un moment donné. Yangambi a été abandonné et depuis le départ du colon, donc le pays n'a pas su mettre une attention sur la recherche agronomique, sur la recherche scientifique. C'est comme ça qu'on a abandonné le pays et voilà que les infrastructures laissées par les colons aujourd'hui sont en délabrement. Et nous faisons un appel au gouvernement congolais de mettre un peu de paquet pour la recherche agronomique. Aujourd'hui, les pays, le gouvernement a les programmes des 145 territoires. Mais ces programmes-là ne peuvent marcher que si l'INERA met en place les semences de base, les semences de qualité. Parce qu'on peut produire dans un espace, on produit 2 tonnes. Mais il y a des semences qui peuvent vous permettre à produire jusqu'à 10 tonnes. Donc, et ça, c'est le travail de l'INERA. C'est nous qui produisons des semences de qualité. Nous faisons vraiment un appel au gouvernement de songer à l'INERA. Il y a des infrastructures. On a un besoin d'un renforcement en capacité humaine. On a besoin aussi d'un renforcement en termes de matériel.
Dites-nous, quelles sont les contraintes, les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien?
Les difficultés, finalement, c'est parce que nous n'avons pas des frais de fonctionnement. Déjà, c'est un problème pour évoluer. Mais nous nous battons avec des moyens de bord. Au-delà de ça, donc, il n'y a pas de fonds alloués à la recherche. Il n'y a pas de crédit aujourd'hui que les banques donnent pour la recherche. Donc, les banques ne soutiennent pas les idées de la recherche. Ça, ce sont des contraintes par rapport à d'autres pays où ce sont ces structures-là, finalement, qui soutiennent la recherche.
Est-ce que vous avez vous-même, en tant que centre, des unités de production?
Ah oui, bien, donc les quelques semences, les quelques quantités de semences que nous produisons, nous avons des partenaires qui font des commandes, nous avons le PNUD, nous avons la FAO, nous avons beaucoup d'autres partenaires qui font des commandes chez nous, et nous produisons des semences et nous faisons rentrer quelques moyens pour faire d'autres champs, pour faire d'autres multiplications.
Monsieur, Dieu merci, Assoumani, merci beaucoup.
C'est à moi de vous remercier.
Le directeur de l'INERA et Ngambi répondait aux questions de Paul Matendo Mayamba. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Pele Kipela Mondo. Merci de votre attention.